vie après normale.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de l'interview de la soprano Karine Wurge. Il y a deux semaines, nous nous étions quittés sur les particularités du répertoire contemporain et ses différences avec la musique classique. La soprano nous a aussi fait part du plaisir égal qu'elle prend à chanter des œuvres classiques comme contemporaines. Continuons donc la conversation.
Donc en fait, ce goût pour l'éclectisme, c'est une recherche de complémentarité. Est-ce que vous pensez que la musique contemporaine et le répertoire, disons, classique apportent deux choses différentes à une chanteuse ?
Oui, c'est vrai peut-être. Je saurais pas dire exactement en quoi, en fait. Peut-être la musique classique, je dirais, apporte peut-être plus de plaisir purement vocal, dans la ligne de chant qu'on émet, dans le plaisir aussi qu'on communique au public, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le public aime beaucoup Mozart, Puccini ou... ou Debussy même. Et la musique contemporaine, oui, va peut-être apporter un plaisir un peu plus égoïste.
Un plaisir d'initié.
Oui, c'est vrai, plus. Même si, par exemple, la musique de Kaya ou même de Pascal du Sapin reste quand même accessible à un grand nombre, parce que au-delà de la difficulté peut-être de certaines intonations dans l'orchestre, c'est une musique qui est très très sensible, hein, qui repose vraiment sur une grande sensibilité.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de Kaya Saariaho. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de sa musique et du plaisir particulier qu'elle vous procure, puisque il me semble que vous avez chanté plusieurs de ses œuvres.
Alors Kaya, je trouve, elle a une musique très très sensuelle et féminine dans un bon sens du terme. Par exemple, j'aime pas trop, enfin je dis ça parce que j'aime pas trop quand on parle par exemple de littérature féminine par rapport à masculine ou... mais il y a quand même quelque chose de féminin, moi je trouve, chez Kaya, et que j'aime beaucoup chanter, dans lequel je me reconnais beaucoup. Et c'est un grand mélange de contemplation, de sensualité, de... Il y a à la fois des passages très très forts et puis d'autres vraiment très très doux. Il y a quelque chose d'aquatique aussi dans sa musique, je dirais. Elle va utiliser beaucoup les cordes, les harpes, elle utilise le clavecin. C'est des très belles sonorités, et puis c'est quelqu'un qui sait très bien écrire pour la voix. C'est très agréable à chanter.
J'ai entendu dire que vous avez chanté,
voilà, ouais,
une de ses pièces en robe de mariée.
Ah oui.
Si vous pouvez nous en dire plus.
Oui, alors ça, c'était il y a 3 ans, puisque je me suis mariée il y a 3 ans. Et en fait, c'était le lendemain de notre fête de mariage, voilà, avec mon mari. Et j'étais à la campagne, puisqu'on avait fait une grosse fête à la campagne. Et puis le matin, lui devait repartir à Paris et revenir le soir. Hein. Et puis... j'ai reçu un coup de téléphone, et c'était l'Opéra d'Helsinki, en fait, enfin pas l'Opéra, en fait, la Philharmonie d'Helsinki, qui m'appelait pour remplacer en dernière minute une chanteuse qui s'appelle Carita Mattila dans une œuvre de Kaya que j'avais déjà chantée pendant l'été, qui s'appelle 4 instants, que je viens d'enregistrer d'ailleurs, donc là le disque est sorti en janvier. Et voilà, c'était pour l'ouverture de la Philharmonie, et il fallait que je sois le soir même à Helsinki, et donc du coup j'étais à la campagne, j'avais pas d'autre robe que ma robe de mariée, du maquillage, mais du maquillage pour le mariage, quoi. J'avais pas dans l'intention d'être sur scène les prochains jours. Et donc je leur ai dit ça, ça les a fait beaucoup rire, et donc ils ont dit, ah, mais il faut vraiment, c'est pas grave, ils m'ont réservé un vol sur le prochain avion à Roissy. Et puis ils ont d'ailleurs réservé un vol aussi pour mon mari, en me disant, bah, comme ça sera votre lune de miel à Helsinki. Puis voilà, donc je suis partie Helsinki sans passer par chez moi, j'avais pas le temps, avec ma robe de mariée, le maquillage que j'avais pas de partition, et je suis arrivée à Helsinki, ils m'ont donné la partition dans le taxi, et puis après on a commencé la répétition pour le concert du soir, quoi.
Voilà. C'est un peu digne d'une scène de film.
Ouais, c'était assez drôle, et puis j'en garde un très bon souvenir. Je crois que Kaya était très touchée. Puis c'est Quatre instants, c'est une œuvre très belle sur un, bon, sur un amour un peu triste, ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'était d'autant plus pas mon cas que je venais de me marier. La robe de mariée, finalement, s'adaptait tout à fait à la situation de l'œuvre. Ouais.
Le temps d'une courte pause, nous allons laisser le livret d'Amin Malouf et la musique de Kaya Sariao se déployer sur les ondes de Transistor. Accompagnée de l'orchestre radiophonique de la radio finlandaise, Karen Wurch interprète le troisième mouvement de Quatre instants intitulé « Parfum de l'instant ».
Vous avez mentionné votre dernier CD qui vient de sortir chez Ondine. Est-ce que vous préférez enregistrer ou être sur scène ?
Ah, c'est complètement différent. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'enregistrement parce que on a le temps vraiment de faire, je dirais, à peu près ce qu'on veut quand même. C'est-à-dire que, voilà, si on n'est pas content à un moment donné d'une phrase, on peut quand même la refaire deux fois, trois fois, sans devenir complètement obsessionnel. Et voilà, mais il y a vraiment une recherche. C'est une recherche vraiment différente. Après, sur scène, c'est le plaisir de la scène, du théâtre, de la communication avec le public, avec l'énergie de la scène où il se passe parfois. Pas toujours, mais parfois quelque chose de magique. Je dirais que la séance d'enregistrement, c'est plus cérébral, en tout cas en ce qui me concerne. Mais on apprend beaucoup d'une séance d'enregistrement aussi. On sort souvent de 3, 4 jours ou une semaine d'enregistrement en ayant fait beaucoup de progrès, enfin en tout cas moi.
En parlant de scène, lorsqu'on est dans un opéra, on est à la fois chanteur et acteur. Mm-hmm. Est-ce que c'est une facette du métier à laquelle vous avez été formée dans les cours de chant ou...
Non, j'ai pas. J'avais fait un peu de théâtre quand j'étais plus petite, pas beaucoup. Non, j'ai vraiment appris pour le coup sur le tas et avec des professionnels. C'est-à-dire, il y a vraiment des Pareil, là aussi, il y a des rencontres qui ont été très très fortes, notamment avec Gilles Bouillon, un metteur en scène qui fait beaucoup de mise en scène à Tours, qui est formidable et qui m'a beaucoup beaucoup appris sur la scène. Avec Stéphane Braunschweig, qui m'a mis en scène dans Mélisande, j'en oublie sûrement. Et c'est vraiment en travaillant avec les metteurs en scène et les collègues, qui nous apprennent aussi beaucoup de choses, hein, que j'ai appris.
Pour revenir à votre œuvre discographique, c'était votre premier album, enfin votre premier CD, Till Solveig, c'est ça?
Oui, Till Solveig. Non, on peut dire Solveig, Solveig c'est en français.
En fait, c'est un CD qui regroupe les œuvres de Grieg, Debussy et Sibelius.
Oui.
Vous êtes celle qui a été l'initiatrice de ce regroupement ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a proposé?
Oui, non, c'est vraiment moi. Et mon père est norvégien, donc je parle un peu voilà, norvégien.
Qu'est-ce que ça suppose comme recherche? Enfin, c'est autre chose que de se voir attribuer un rôle, peut-être?
Ah oui, oui, oui.
Une certaine cohérence.
Oui, 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 oui. C'est pas facile d'ailleurs. Moi, je mets toujours beaucoup de temps, en fait, à trouver l'ordre des mélodies pour un récital ou pour un disque, justement. Là, on avait envie avec Suzanne, justement, de faire de la musique scandinave. Donc, on a pensé à Grieg et Sibelius. Et puis, on trouvait que l'univers de Debussy, en fait, s'accordait très bien, en fait, dans l'espèce de clair-obscur qu'il y a chez Debussy, avec justement cet univers aussi clair-obscur de Sibelius et puis les couleurs de Grieg.
En ce qui concerne les temps forts de votre carrière, on a parlé du concert en robe de mariée. On peut aussi parler de l'année 2009, qui était une grande année, puisque vous avez reçu le Grand Prix Del Duca de l'Académie
des
Beaux-Arts. Et la même année, la victoire de la Révélation classique. Mm-hmm. Est-ce que vous accordez un prix à ce genre de reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le monde du chant, a une assez grande importance dans une carrière, etc.? Ou est-ce que c'est...
Ben, ça, oui, ça a son importance, en fait... Surtout d'ailleurs, je dirais, dans les festivals et puis les récitals, comme moi j'en fais beaucoup, parce que les programmateurs, les directeurs de salles, et d'autant plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, d'ailleurs, malheureusement, il y a des telles difficultés budgétaires qu'ils vont donner quand même la priorité à des gens qui sont... plus médiatisé que d'autres. Voilà, en fait, c'est dommage parce que le monde fonctionne comme ça. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça, mais je comprends tout à fait, en tout cas, la difficulté actuelle. Et le fait d'être médiatisé comme ça, d'avoir une victoire de la musique, ça fait moins peur, en fait, par exemple, à des directeurs ou à des programmateurs. Ils vont se dire, bon, elle ou lui, il a eu la victoire cette année, donc si on met ça, peut-être notre public va venir plus facilement que si on met quelqu'un qui est moins médiatisé et qui a autant de talent, parce que c'est souvent le cas, mais vers lequel le public n'a pas vu à la télévision, voilà. Et donc, en fait, pour cette raison-là, c'est important d'avoir des prix comme ça, outre le fait, effectivement, d'avoir une reconnaissance personnelle et d'être heureux à titre personnel, de se dire... Mais je suis quand même, moi, lucide sur... assez lucide sur le métier, les rouages, tout ce qui rentre en jeu. Moi, j'ai énormément de collègues magnifiques qui n'ont pas eu de victoire de la musique pour X raisons, soit parce qu'ils étaient pas ils n'ont jamais été libres à une date, soit parce que leur agent les a pas proposés, soit parce qu'ils ne font pas de disques, donc du coup c'est moins accessible. Enfin, il y a énormément de raisons qui font que un tel va avoir une victoire et voilà, et l'autre pas. Maintenant, c'est évidemment, c'est toujours agréable et effectivement ça apporte quand même quelque chose. Ouais.
Lorsque vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous écoutez comme musique?
Moi, j'écoute très facilement du jazz, en fait. Des voix, d'ailleurs, comme plutôt Billie Holiday ou Ella ou Sarah Vaughan. Ou bien du jazz. J'aime beaucoup le jazz de la Nouvelle-Orléans, en fait. Donc, où je vais écouter aussi Thelonious Monk ou... voilà, des musiciens comme ça. Je peux écouter beaucoup de musique de chambre aussi, sans voix. c'est-à-dire des quintettes de Mozart ou des quatuors de Shostakovich ou non, et puis des choses actuelles que j'entends par-ci par-là. Par exemple, j'adore ce que fait Benjamin Clementine. J'aime beaucoup Tom Waits, donc je me lasse pas de Tom Waits, je pourrais l'écouter beaucoup. Donc voilà, c'est
très bien. Est-ce que vous voulez nous parler de projets qui vous tiennent à cœur en ce moment?
Bah le projet là, la création de Pascal du Sapin à la Philharmonie. Je suis contente pour double raison, d'abord de chanter une création et puis de chanter dans la nouvelle salle de la Philharmonie. Je suis très contente, donc c'est dans un mois à peu près, et puis c'est un très beau projet. Je vais rechanter une de ses œuvres aussi là au Festival de Pâques à Aix, c'est-à-dire en avril prochain. Et voilà, ça ce sont des beaux projets avec des personnes que j'aime, et voilà.
Merci Karen Vourge d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre dernier CD qui regroupe 3 œuvres de Kaya Sarriao est sorti en janvier dernier chez Ondine. On pourra vous retrouver le 29 mars prochain sur la scène de la Philharmonie de Paris dans une création de Pascal du Sapin, mais également en avril au Festival d'Aix-en-Provence, comme vous venez de nous le rappeler.
Avant que l'on se quitte en musique, bien sûr, je tiens à remercier l'association des anciens élèves que vous pouvez retrouver sur leur site internet lyon-normalsup.org. Le lien se trouve sous le player. Vous retrouverez aussi Maëlys le mois prochain pour une interview avec Pascal Colombani. À présent, je laisse place à la voix saisissante de Benjamin Clementine, qui lui aussi s'est vu décerner une victoire de la musique, mais seulement cette année. Merci Karen Vourche pour cette découverte.
Alone in a box of stone. They claim to love me, but they all lying. I've been lonely, alone in the box of my own. And this is the place that I belong. It's my home, 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 my home. It's my home, my home, my home, my home, my home.